c'est vraiment une propriété de famille ici. Sa caractéristique unique, c'est que, alors, en 7 siècles, elle a été vendue une fois, en 1929, mais en fait entre deux branches de la famille Royère, celle qui s'éteignait, qui a repris le flambeau, en l'occurrence c'était mes grands-parents. Donc on peut vraiment dire qu'on est dans une propriété familiale. La famille Royère étant arrivée ici, je l'expliquais un peu au début du 17e, mais par succession, sachant que l'origine que l'on connaît ici, ça remonte au 14e siècle, c'est-à-dire le premier testament d'un propriétaire, famille de Perrault, c'est début du 14e siècle. Bon, avant, il y a une histoire, bien sûr, mais elle n'est pas documentée. Voilà, alors, je voulais en introduction vous dire d'abord qu'on vous accueille avec mon épouse, Constance, qu'on est très heureux que vous soyez là. Et on voulait aussi insister sur le fait que, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, une propriété comme ça, c'est une aventure collective, non seulement dans le temps, bien sûr, puisque chacun apporte sa pierre, mais aussi avec tout un tas de personnes qui interviennent sur les murs, sur les jardins, sur l'eau, en permanence. Et donc finalement, ce qu'on peut voir, nous, et ce dont on profite, c'est de la somme de cet effort-là, et qui inclut aussi pour nous, en tout cas c'est important, les collectivités locales. Donc on fait vraiment attention de travailler en bonne intelligence, notamment avec ici, si vous êtes au Lardin Saint-Lazare. Après, il y a d'autres collectivités locales proches, Bourgarde de Terrasson, juste au-dessus de nous sur le plateau, Condat-sur-Vézère en dessous, Les Farges en face. Il y a un vrai travail en commun. Et puis l'État, l'État qui nous soutient également dès qu'on a des travaux, des rénovations à faire. Alors pour se situer, donc j'ai cité quelques lieux. Donc le château, il est nord-sud. Donc là, vous faites face au nord, à ma droite, pleine ouest, donc vers la Bachellerie Périgueux. Côté sud, c'est le plateau des Farges et la Vézère en bas. Et donc de l'autre côté des Farges, c'est Montignac. Et puis de ce côté-là, ça va être Terrasson, la Vézère qui remonte. Et au-dessus de nous, on a une colline qui s'appelle le Poujoulou. Derrière, c'est la Corrèze. On est vraiment dans une zone de transition ici, entre le Périgord, le Bas-Limousin, et on va voir que c'est vraiment très entremêlé. Les histoires, le commerce, tout est très entremêlé dans cette zone, entre la région d'Ayen, Saint-Robert, et puis là où on va aller, notamment cet après-midi. Alors, le site dans lequel nous sommes est un site inscrit de 170 hectares, donc un site protégé qui comprend ce vallon et la colline donc du Poujoulou à côté. Donc, c'est un site inscrit depuis 1984. Les bâtiments, eux, ils sont également inscrits. Le château depuis 1948 et les communs par lesquels vous êtes trompés depuis 1974. Donc c'est une histoire de famille, vous avez bien compris. Et donc les premières familles s'appellent les Perrault. Le seigneur dont je vous parlais tout à l'heure, qui a fait son testament au début du 14e, s'appelle Guillaume de Perrault. Ensuite, on a une famille qui arrive derrière par succession, qui s'appelle les Montoriol. Et puis enfin, mi-15e et début 16e, une famille qui s'appelle les Flaminques. Alors on trouve d'ailleurs ce nom-là ailleurs en Périgord. J'ai pas été chercher les alliances, mais c'est un nom qu'on trouve du côté de Brantôme en particulier, à Condat aussi ici. Et donc les Flaminques ont construit fin 15e toute cette façade-là, donc avec les tours que vous pourrez voir, la tour du nord, celle-ci la tour du sud, et également une grande partie des communs. Voilà. Et donc ce sont ces familles-là qui vont, qui vont construire le château tel que nous le voyons aujourd'hui, jusqu'à une succession qui se fait au début du XVIe siècle entre les Flaminques et les Batfol. Et c'est à ce moment-là que la famille de Batfol arrive ici, donc à deux propriétés, Batfol-Danse et donc le château de Perrault. Et les bêtes folles vont pas mal travailler, et je vais vous expliquer ça, on va aller un peu plus de ce côté-là. Je vais vous montrer un peu les traces qu'ils ont laissées, et puis comment c'est ensuite passé des bêtes folles aux royères, un siècle plus tard, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle. Voilà un petit peu pour l'introduction générale.
Alors j'ai la question de savoir ce qui est un intérêt stratégique de Perrault. Si on parle sur un plan défensif ou militaire, c'est difficile à dire. Il est un peu étonnamment situé, ce château, à flanc de cette colline. Ce qu'on sait encore aujourd'hui, c'est que il y a des sources, beaucoup de sources ici, qui arrivent du plateau de Bourgard qui est derrière nous. Donc ça, c'est évidemment très intéressant. Après, il s'est développé comme seigneurie, avec haute et basse justice jusqu'à la Révolution. Donc c'était un marquisat, voilà. Donc c'était un centre de pouvoir seigneurial, mais sans qu'il soit directement relié à un aspect militaire ou stratégique. On est quand même un peu à l'écart des voies directes de communication, notamment de la Vézère, hein, qui est en contrebas. Alors, ce que je voulais dire ici sur les bêtes folles, donc quand ils arrivent au 16e, on pense que c'est à ce moment-là, donc début 16e, que cette tour-là, celle qui est abandonnée aujourd'hui, a été érigée. Vous pourrez y jeter un petit coup d'œil si vous le souhaitez. Elle est vide, je vais vous expliquer pourquoi, mais elle est aujourd'hui vide. Il y a plusieurs niveaux. Il y a un joli escalier à vis qui assure la circulation et qui est en assez bon état. Donc, on pense qu'ils ont fait cette partie-là. Le pédiluve qui est derrière vous, hein. Ils ont été ici jusqu'dans les années 1620. Alors après, c'est encore une histoire de succession. Et là, c'est la succession tourne en fait pas très bien. Donc il y a un certain Louis de Badfol qui n'a pas d'enfant. Alors il a une sœur, Marguerite, qui a eu la bonne idée d'épouser un royère. Alors c'est à ce moment-là que les royères arrivent dans le paysage, parce qu'ils sont du Bas-Limousin à une quinzaine de kilomètres d'ici, dans la vallée de l'Aisle, qui est une très jolie vallée qui descend d'Ayen, enfin de Saint-Robert à Ayen, qui rentre en Dordogne du côté de Villac. Donc ils n'étaient pas très loin, ils étaient établis là-bas depuis le 15e siècle. Et donc il y a cette alliance au 17e qui les fait arriver ici. Alors simplement la succession est disputée parce que l'heureux bénéficiaire, c'est un certain François de Royères. Simplement il a une sœur, Diane, qui a épousé un Aubusson. Et en fait ces deux familles vont se battre pour l'héritage de Perrault. Alors, là où ça se corse, c'est que François de Royères est un peu de sac et de corde, enfin, c'est pas un gentil garçon. Et donc, il est imprudent, il commet quelques dégâts dans le secteur, il assassine un notaire, donc là, ça va quand même un peu loin. On a une sorte de rapport de l'époque, on sait qu'à l'époque, il y avait une tour carrée, une espèce de donjon, qui était sans doute au début de la haie, là, parce qu'on a retrouvé. Des fondations il y a une vingtaine d'années quand on a creusé dans le jardin, et il y avait des gens qui croupissaient là, enfin il y a toutes sortes de récits sur son compte qui ne sont pas très élogieux. Alors il a été condamné, et c'est là qu'on voit à peu près le résultat. Il a été condamné à ce que son château soit démantelé, et lui était condamné à mort à Bordeaux en 1635. Et donc à partir de là, il y a un siège qui se déroule à Perrault. Ils arrivent avec quand même 800 hommes. Il y a un siège qui dure 48 heures, une soixantaine de défenseurs ici. François de Royères avait eu l'habileté de quitter les lieux. Il avait juste laissé ses parents et la garnison ici. Et lui, il avait filé sur Badfol. Voilà. Et donc, Perrault s'est rendu. Ils avaient été partiellement démantelés. On ne sait pas exactement ce à quoi ressemblait le château précédemment. Il y avait cette fameuse tour dont je vous parlais, celle-là donc, qui n'a pas été récupérée depuis 1635. Finalement, tout ça s'est quand même résolu par une négociation. Donc, les royères ont pu rester à Badfol. François a eu la vie sauve sur ce coup-là. Il est mort en duel quelques années plus tard. Mais les royères n'ont plus le droit de revenir ici, hein, donc expulsés. À ce moment-là, donc, c'est le beau-frère qui en profite, donc les Aubusson, qui vont occuper Perrault pendant à peu près un siècle.
Il y avait, je pense qu'il y avait, de toute façon, il y avait beaucoup d'intérêt pour que le château ne soit pas démantelé entièrement, hein, dans le cadre de cette succession difficile dont je vous parlais. Et donc, exit la famille Royère jusque dans les années 1720. Et à ce moment-là, il y aura une transaction, une négociation par laquelle les Royères, en fait, vendront Batfol à la fin des années 1720 pour revenir s'installer ici à Perrault. Voilà un peu pour vous donner le contexte de cette arrivée un peu chahutée à Perrault, le siège de 1635 et puis ce qui nous reste du château aujourd'hui. On va pas loin, on va juste monter derrière et je vais vous donner un troisième point de vue sur le château avec d'autres explications plus sur la partie 18e. En fait, je voulais vous amener ici, vous faire ce petit effort parce que on voit pas mal la partie 18e dont je voulais vous parler. Donc comment ça se passe? Donc les Royères à Batfol n'ont pas perdu espoir de revenir à Perrault. Hein. Donc pendant un siècle, ils y croient. Ils y arrivent donc par cette transaction à la fin des années 1720. Et celui qui arrive ici s'appelle Dominique. Alors c'est l'autre dont je veux vous parler, l'autre membre de la famille, alors qui est quand même plus honorable que François. Dominique, lui, il est orphelin de père. Son père s'est tué une nuit dans les châteaux du Fossé de Long, dans la vallée de l'Aisle. Sa mère l'a abandonné. Donc là, on est au début du 18e. Hein. Il est élevé par sa grand-mère. Et donc, il habite le château de Batfol. Et il récupère donc Perrault. Il a un peu moins de 30 ans. Il est marié à une Salignac Fénelon, qui s'appelle Marie-Augustine. Donc il a fait un beau mariage en Périgord et c'est lui qui va agrandir, embellir Perrault pour le rendre plus vivable par rapport à l'état, je dirais, féodal du château. Et donc il va faire il va doubler en fait le château, et c'est pour ça que je vous ai amené ici, parce qu'on le voit bien, hein, il va doubler le château en largeur avec cette façade et ce très grand toit. Il va couvrir la façade est et la façade ouest. Et il va faire donc beaucoup d'aménagements au 18e. Alors, il n'a pas d'enfant. Mais comme c'est quelqu'un de prévoyant, ce qu'on a pu retrouver, c'est qu'il a poussé son frère Jean-Marc, il l'a poussé à épouser sa belle-sœur. Et donc, 10 ans après son mariage, le frère Jean-Marc épouse à son tour une autre sœur, Salignac Fénelon. Et eux vont avoir un héritier. Qui va ensuite reprendre derrière Dominique dans les années 1760. Et la succession est ainsi assurée, jusque à la reprise par les grands-parents, donc à l'extinction de cette branche au début du XXe siècle, autour de 1900. Donc c'était un homme, Dominique, qui a beaucoup fait pour Perrault et qui a également permis qu'il y ait une succession qui se fasse et que l'histoire se prolonge. Voilà. Il a aussi fait, j'ai oublié, mais vous pourrez le revoir en ressortant, dans les communs. Les communs sont essentiellement 15e, 16e siècle, mais vous avez une aile en retour, celle qui va vers le Pédiluve, que vous verrez qui est 18e. Et ça a été également fait par Dominique, hein, au milieu du 18e. Les travaux ont dû être terminés vers 1760. Moi, je vous ai dit un petit peu l'essentiel de ce que je voulais vous transmettre sur Perrault. Le jardin ici, on cherche à ce qu'il s'harmonise avec le château, un peu rude, à part la façade 18e. Donc voilà, nous, c'est surtout à ça que l'on veille.